Bien. Est-ce que vous avez faim? Faim de quoi? De la gap qui arrive après ou faim de la parole de Dieu? On a chanté La parole est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre. Waouh! On va faire une rétrospective de tout ce qu'on a dit, les paroles, toutes les paroles qui ont été déversées toute cette semaine. Mais j'ai pas le temps. Ok. J'espère que vous êtes en feu parce que moi je suis en feu ce matin. Et cette semaine, donc vous l'avez vu, on était dans notre semaine de jeûne et prière. Et j'ai la chance ce matin de pouvoir apporter l'ultime prédication, la dernière prédication pour clôturer cette semaine. Et j'avais envie de nous encourager parce que cette semaine, en fait, on a eu des thèmes précis tous les jours. Et je voulais faire un rappel. Mardi, on a parlé d'un peuple qui adore. Mercredi, on a parlé d'un peuple qui marche dans la vérité. Jeudi, d'un peuple rempli du Saint-Esprit. Vendredi, un peuple consacré. Samedi, hier soir, donc, un peuple qui écoute, pour être vraiment à l'écoute de ce que Dieu avait à nous dire. Et ce matin, j'aimerais en rajouter un autre. Un peuple qui prie et qui jeûne. Et je vais survoler plusieurs textes ce matin, mais j'aimerais qu'on puisse prendre Daniel 1. Alors Damien, pourquoi Daniel? Bah forcément, c'est très connu, il y a le jeûne de Daniel. Oui, mais pas que. Alors prenons Daniel 1 au verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il supplia les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel la faveur et la compassion devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains, mon seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il le visage plus défait que celui des jeunes gens de votre âge et exposeriez-vous ma tête auprès du roi ?» Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Michaël et de Azaria. « Éprouve donc tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne que des légumes et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre mine et la mine des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure mine et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Désormais, l'intendant emportait les mets du roi et le vin de leur repas, et il leur donnait de l'eau et des légumes. Et puis un petit peu plus loin, dans Daniel 10, 3 ans plus tard, la troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole est vraie. Il y aura un grand combat. Il saisit cette parole et comprit la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil et dans le jeûne. Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra aucune viande ni vin dans ma bouche, et je ne me fis aucune onction jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Waouh! Ça, c'est le jeûne de Daniel. Vous en avez normalement tous entendu parler. Et j'aimerais vous donner un petit peu le contexte. Parce que oui, effectivement, on a fait la semaine de jeûne et prière, mais peut-être que tout le monde n'était pas forcément engagé sur cette semaine, et peut-être qu'il y en a même qui nous visitent. Donc, je voudrais vous redonner un contexte. Donc, on se trouve à cet endroit-là de l'histoire, dans la Bible. On est 800 ans après l'Exode, et le royaume de Juda, donc le royaume du Sud, vit une période de déclin spirituel. Et malgré ces avertissements, les avertissements répétés des prophètes Jérémie, Ézéchiel et autres, le peuple et les rois persistent dans l'idolâtrie et dans la désobéissance. Et Dieu annonce un jugement. Juda sera livré à Babylone. Et Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, assiège Jérusalem. Une première déportation a lieu, et parmi les déportés se trouvent des jeunes hommes de la noblesse, intelligents, instruits et destinés à être formés pour servir l'empire babylonien. Et Daniel, donc, et ses amis, dont j'ai parlé juste avant, font partie de cette élite. Et Babylone cherche à les transformer complètement. On a parlé tout à l'heure des étiquettes et des identités. Le royaume de Babylone décide de leur changer de nom, de changer de langue, de leur faire changer de culture, mais aussi leur identité spirituelle. Ces quatre gars ont été déportés à plus de 1500 kilomètres, loin de leur terre. Mais Dieu ne les abandonne pas. Et des exemples comme ça, on en lit tout au long de la parole, mais particulièrement dans le livre de Daniel. Et dans ce contexte hostile, Daniel, Anania, Michaël et Azaria choisissent la fidélité à Dieu et le combat spirituel. Comment ? Par le jeûne et par la prière. Alors, c'est quoi le jeûne ? On en a beaucoup parlé. Le mot jeûner dans la Bible signifie s'abstenir de nourriture, dans le but de rechercher Dieu avec ferveur, par la prière. Initialement, le but du jeûne était de se priver de nourriture. Mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on est tellement rempli de distractions, rempli de notifications, rempli de toutes ces choses-là, que maintenant on peut même jeûner le téléphone portable, on peut jeûner la tablette, on peut jeûner les séries, on peut jeûner toutes ces choses en fait finalement qui nous prennent du temps et qui nous empêchent de passer du temps dans la présence de Dieu. Mais l'idée c'est de se priver de quelque chose qui nous prend du temps, qui nous coûte pour nous rapprocher de la face de Dieu et pour vraiment rentrer dans une complète intimité et dans cette relation avec Dieu. Alors pourquoi jeûne-t-on ? Je ne sais pas si certains se sont posé la question. Et depuis plusieurs jours, on parle, même depuis la semaine dernière, et dans la parole, le jeûne accompagnait la prière. Dans des nombreuses situations, dans des moments d'intercession, dans des moments de repentance, dans des moments d'adoration, ou encore tout simplement pour écouter Dieu, et pour écouter une direction dans laquelle Dieu voulait faire avancer ses hommes et ses femmes. Et dans notre texte de Daniel, Daniel et ses trois compagnons n'ont plus que ça en fait. Ils sont exilés, ils sont loin de leur terre. Donc ils n'ont plus que le jeûne et la prière pour simplement faire confiance à Dieu. Ce monde n'était pas le leur. Ils ont remis leur situation entre les mains de Dieu. Ce monde était hostile à leur foi. Ils ont remis leur situation entre les mains de Dieu. Au milieu de l'exil, ils ont manifesté une foi et une fidélité inébranlables, pas par leur propre force, par le jeûne et par la prière. Tout simplement parce qu'ils avaient l'assurance que Dieu était au-dessus de cette situation et que Dieu allait les accompagner dans cette épreuve. Amen. Et c'est la raison pour laquelle aussi cette semaine, nous avons eu envie de prendre part à ce jeûne. Et dans ce début d'année, de jeûner individuellement, mais aussi en tant qu'Église. Parce que nous aussi, nous vivons dans un monde qui est hostile à la foi. Et parce que nous aussi, nous voulons faire confiance à Dieu. Et nous savons qu'il est souverain, qu'il est au-dessus de tout ce que nous vivons et de tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Alors oui, nous ne sommes pas ici particulièrement à Marguerite persécutés. Mais on l'a vu il y a quelques semaines avec Luc, il y a dans le monde aujourd'hui des chrétiens qui sont persécutés. Et c'est pour cette raison qu'on voulait prendre part aussi à ce jeûne. Vous vous rappelez de ce qu'on a lu vendredi, un des versets qui a été partagé dans Jean 17. « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi... » Pardon, excusez-moi. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux soient sanctifiés dans la vérité. Wow. Celui qui a dit ça, c'est notre grand modèle. C'est Jésus. Il est celui que nous voulons suivre. Il est celui que nous voulons imiter parce que nous sommes ses disciples aujourd'hui. Et Farid nous l'a lu, mais je vais le relire. Regardez ce qu'il a fait tout au début de son ministère. Matthieu 4, verset 2. Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits. Vous avez jeûné cette semaine, vous savez ce que ça représente. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de l'homme, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus s'est mis à part. Jésus a été dans le désert. Jésus s'est préparé. Pourquoi ? Parce qu'il savait qu'il y avait un combat à mener juste après. Et ce combat, il a eu la victoire dessus. Et puis Farid l'a répété, mais je vais le re-répéter. Regardez ce qui se passe un peu plus loin dans Matthieu 6, verset 16. Il n'y a pas de hasard. Quand on a besoin de répéter, c'est que Dieu veut faire rentrer les choses. Matthieu 6, verset 16. « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. » Petite parenthèse, à cette époque, les hypocrites dont Jésus parlait, c'était les pharisiens. Comment ils pratiquaient le jeûne ? Ils sortaient le lundi et le jeudi sur les places publiques. Ces deux jours étaient les jours de marché. Ils mettaient des vêtements déchirés, ils mettaient des cendres et ils priaient. Imaginez les gens sur la place publique. Imaginez ces gens au marché. Waouh ! Regarde ces gens qui prient. Waouh, c'est beau. Ils ont reçu. Ils ont été glorifiés par les hommes. Mais ce n'est pas ce que Jésus nous demande ici. Matthieu 6 dit, si vous jeûnez ou lorsque vous jeûnez. Il dit lorsque vous jeûnez. Il ne nous laisse pas le choix, c'est lorsque vous jeûnez. Donc, je viens vous dire quelque chose ce matin, le jeûne n'est pas une option. Le jeûne n'est pas une option dans la vie de prière. Le jeûne n'est pas une option dans la vie d'un chrétien. Ça fait partie intégrante de sa vie. C'est dans son ADN. Alors je continue. Matthieu 17, vous connaissez cette histoire. Les disciples n'arrivent pas à guérir un enfant démoniaque. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à lire dans Matthieu 17. Et regardez l'intervention de Jésus au verset 18. Jésus menaça le démon qui sortit du garçon, et celui-ci fut guéri à l'instant même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons ?»« C'est à cause de votre petite foi, leur dit Jésus. Et en vérité, je vous le dis, si vous avez une foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, « Transporte-toi d'ici, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. » Et au verset 21, « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. » Pourquoi Jésus y arrive comme ça ? Parce qu'on savait que Jésus avait une vie de prière incroyable. Jésus jeûnait, Jésus priait, Jésus se retirait dans des lieux secrets pour prier. Que par la prière et par le jeûne. Wayne Grudem, que j'aime beaucoup, dit « Le jeûne accompagné de la prière exprime le sérieux et l'urgence de nos prières. C'est une façon symbolique de dire à Dieu que nous sommes prêts à sacrifier, que nous sommes prêts à nous sacrifier pour que la situation change. » Alors oui, le jeûne, mais accompagné de la prière. Se priver, oui, mais pour chercher la face de Dieu. Sacrifier du temps est quelque chose qui nous est cher et qui nous coûte. Oui, bien sûr, mais pour chercher sa face et pour se rapprocher de lui, pour faire grandir cette relation. J'aimerais vous lire maintenant Matthieu 6, verset 8. « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. » Est-ce qu'on le sait, ça ? On ne va pas vers un père qui ne sait pas ce qu'on veut. Il connaît nos besoins. Il connaît nos situations. Il connaît notre vie. C'est lui qui nous a façonnés. Il sait exactement ce qu'on traverse. On peut prier pendant des heures pour lui demander quelque chose. Il le sait déjà. Luc 9, verset 9. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et à celui qui frappe, on ouvrira. La Bible est remplie de toutes ces prières qui disent que quand on demande, on reçoit. Et Dieu, en plus, il sait déjà ce dont on a besoin. Jacques 5, verset 16. La prière du juste a une grande efficacité. Wow. Ok. Dieu sait ce qu'on a besoin. La prière du juste a une efficacité. Mais pourtant, ça n'avance pas dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Avec quelle attitude est-ce que je prie? Avec quelle attitude de cœur est-ce que je viens devant mon Père et que je lui demande ce que j'ai à lui demander? Et avec quelle attitude est-ce que je viens devant mon Père et que je jeûne? Est-ce que je suis comme dans ce passage où je vais dire à tout le monde que je jeûne, mais finalement je ne prends pas de temps dans le lieu secret? Deux Chroniques, 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ça, il faut que ça rentre. On a besoin de l'assimiler, ça. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face. C'est tout ce que Dieu veut. S'humilier et chercher sa face. Encore une citation de Wayne Grudem. J'en ai pas mal. Attention, celle-là a fait mal. Si nous étions réellement convaincus que la prière change la manière dont Dieu agit et que Dieu change réellement les choses en réponse à la prière, comme l'Écriture l'enseigne à maintes reprises, alors nous prierons beaucoup plus que nous le faisons. C'est pas fini. Si nous prions peu, c'est probablement parce que nous ne croyons pas vraiment que la prière puisse changer quelque chose. Waouh ! Ça, moi, je l'ai lu. Je l'ai pris. Hein. Je l'ai pris personnellement. Je me dis, mince, Seigneur, j'ai pris une leçon. Et donc, j'ai une question pour nous ce matin. Est-ce qu'on a vraiment envie que notre situation change? Est-ce qu'on croit vraiment que Dieu peut changer notre situation, notre saison, nos challenges, toutes ces choses-là? Est-ce qu'on croit que Dieu peut faire grandir cette intimité, cette relation qu'on a avec lui? C'est une vraie question, hein, il n'y a pas de piège. Dans mes notes, j'ai marqué « Oui, mais Damien, moi je veux que ma situation change, mais tu me parles de Daniel qui a jeûné 3 semaines, Jésus qui a jeûné 40 jours, c'est impossible pour moi, je saute un repas, je tourne de l'œil, j'arrive pas à prier plus de 2 minutes et de toute façon, je n'entends pas Dieu me parler. » Ça parle à certains, ça? Moi, ça m'a parlé très longtemps. Si quelqu'un se reconnaît dans un des détails que je viens de lire, j'ai un verset et un exemple concret à vous montrer. 1 Timothée 4, verset 8. Paul dit quoi ? Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. C'est quoi la piété ? La composante de la piété, c'est une relation avec Dieu. Ça veut dire mettre Dieu à la première place. La dépendance, la confiance, l'obéissance. 2, la piété, c'est une discipline de vie. C'est la prière, c'est la lecture de la parole, c'est la maîtrise de soi, la persévérance. C'est la communauté, ici le dimanche, mais c'est aussi les groupes de vie, c'est les temps que j'ai à part avec Dieu. Et puis 3, c'est aussi un fruit visible. L'intégrité, l'amour de mon prochain, la justice, mais surtout d'être un témoignage. Et donc, qu'il y ait de la cohérence entre ma foi et mes actes. Et Paul dit quoi dans ce verset ? Exerce-toi ou entraîne-toi, selon les versions. Et pour ceux qui ne savent pas, je suis le dirigeant, moi, d'une société d'installation de matériel de sport. Beaucoup le savent. Et avec mes équipes, on remplit des lieux vides de tout un tas de machines et d'équipements dans un seul but, pour qu'il y ait tout un tas d'athlètes qui viennent, qui s'occupent de nos installations, qui utilisent nos installations et qui viennent physiquement devenir meilleurs. Tous les sportifs ont tous des buts et des objectifs qui sont différents. Il y en a un qui est commun. Ils veulent grandir. Ils veulent croître. Ils veulent développer, devenir meilleurs. Alors aujourd'hui, j'ai un exemple visuel pour changer un peu. Est-ce qu'on peut applaudir Nico, s'il vous plaît ? Comme le chauffage est fort, on va réveiller un peu le monde. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ça ? On va y venir. Vous connaissez tous Nico ? Nico n'a pas toujours été aussi grand. Et Nico n'a pas toujours été aussi costaud. Mais ça, ceux qui étaient là avant nous le savent mieux que moi. Mais Nico, un jour, il a pris la ferme résolution dans son cœur. Et il a décidé de se mettre à la muscu. Avec un objectif en tête. Et puis il a commencé à s'entraîner. Là, tu peux faire 5 reps. Là, à ce moment-là, il s'entraînait une fois par semaine. Mais c'était dur. C'était très dur. Très, très dur. Pourtant, c'était léger. C'était pas habituel, c'était un effort, ça lui demandait énormément de ressources. Mais les jours passaient, et il continuait, et il s'entraînait, et il s'entraînait. Nico prenait sur lui parce qu'il avait un objectif en tête, et il l'avait décidé. Et puis les semaines et les mois passent. Nico progresse doucement. Et Nico s'entraîne maintenant 2 fois par semaine. Il a encore mal. Il a encore du mal. Il a encore des courbatures des séances d'avant. Mais ses muscles se densifient, grossissent et deviennent plus résistants à l'effort. Vous voyez où je veux en venir ? Et Nico le voit bien, alors ça lui donne encore plus de motivation. Et c'est toujours dur de se faire violence. Mais il s'entraîne maintenant 3 fois par semaine. Et de loin, il commence à voir son objectif qui s'était atteint quand il avait pris la ferme résolution dans son cœur de commencer à s'entraîner. Maintenant, on arrive à un niveau où Nico sacrifie plusieurs soirées par semaine, plusieurs McDo avec ses copains, parce qu'il sait qu'en plus de pouvoir s'entraîner, ses muscles ont besoin de bonne nourriture et aussi de repos. Donc Nico sacrifie des soirées, sacrifie des temps avec les amis. Tu peux, Nico, faire 2 reps. Et à ce moment-là, Nico s'entraîne 4 fois par semaine. Ouais, c'est bon, Nico. Merci. Attendez, c'est pas fini. On arrive à un moment où Nico, maintenant, lit des livres, écoute des podcasts, passe son temps à regarder des vidéos. Il s'entoure de tous ses amis qui sont passionnés par la même chose. Parce que maintenant, son entraînement, c'est son mode de vie. Ses muscles sont taillés pour ce mouvement, habitués à soulever lourd, prêts à en découdre pour soulever les prochaines tonnes. Il se lève pour ça, il pense à ça toute la journée. Il vit pour ça et son entourage ne l'embête pas parce qu'ils savent qu'il est là pour ça. Il est entouré de personnes qui ont cette même passion, cette même discipline, ce même but et cette même envie. Vas-y Nico, si tu sens. Allez, on peut l'applaudir. Oui. Toujours son objectif en tête, Nico s'entraîne maintenant 6 fois par semaine. Bon, tout n'est pas vrai dans cette histoire. Hein. Cette discipline qui était difficile au début n'est plus qu'un lointain souvenir, car maintenant Nico fait de cette discipline un mode de vie. C'est devenu normal pour ses muscles, pour son corps, et c'est presque plus un sacrifice douloureux. Il vit pour ça, et avec la ferme décision qu'il a dans son cœur et avec toute sa détermination, il a mis des priorités, il a mis des actions en place, il y a une discipline de fer, un entourage qui lui permet de garder une rigueur pour l'aider à atteindre son but, sa croissance. Il se prépare déjà à tous les prochains challenges. Et vous savez quoi, maintenant, quand il va à la salle, des jeunes le regardent et lui demandent du conseil, et lui demandent comment il fait, lui demandent quelles sont les étapes, quels sont les conseils que tu peux nous donner à nous qui commençons. Vas-y Nico, tu peux nous en faire une. Allez, on l'encourage. Allez, 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 allez. Ouais. Bravo. Merci Nico. Hein ? Non, c'est bon, laisse-la. Merci, on peut l'applaudir, merci beaucoup. Aujourd'hui, Nico ne l'a pas fait là, mais aujourd'hui, Nico soulève 185 kilos. Alors oui, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais si vous avez un déménagement, appelez Nico. Exerce-toi à la piété. Entraîne-toi à la piété. Pourquoi j'ai pris cette image ? Sans l'avoir déjà expérimenté ou sans s'être entraîné, jeûner, prier 21 jours, 40 jours ou passer 4 heures dans la prière, si vous n'êtes pas entraîné, c'est impossible. Et l'essentiel dans le jeûne et la prière, ce n'est pas la quantité de choses qu'on va supprimer ou même jusqu'à où on va aller physiquement pour tenir, mais c'est l'attitude du cœur qu'on va prendre devant Dieu. Et ce temps qu'on va passer dans sa présence, aussi petit soit-il, si vous devez jeûner mais que vous devez prier que 2 minutes par jour, alors qu'avant vous ne priez pas, c'est déjà une victoire. Vous avez vu les jambes de Nico à 40 kilos ? Elles étaient comme ça. Et il n'y a aucun doute sur le fait que quand il a commencé, c'était ça. Vous vous rappelez d'une prédication de Farid qui nous a parlé de Luther ? Martin Luther priait 3 heures par jour minimum. John Wesley, 2 heures par jour. George Whitefield, un prédicateur anglais, 3 heures par jour, 1 heure le matin, 1 heure le midi, 1 heure le soir. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis loin de ça. Mais ça m'inspire. Ça m'inspire parce que tous ces hommes, comme Nico, ils ont tous commencé quelque part. Ils ont commencé petits. Ils se sont entraînés à la prière et dans le jeûne pour chercher la présence de Dieu, pour chercher sa face, pour grandir dans cette relation, dans cette intimité. Et on l'a vu, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, pour adorer Dieu, pour marcher dans la vérité, pour être rempli du Saint-Esprit, pour être consacré à Dieu et pour écouter Dieu. Et c'est ce qu'ont fait Daniel et ses compagnons. Relisons Daniel 1 au verset 8, juste le début. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Daniel résolu. Selon les versions, c'est Daniel résolu dans son cœur, Daniel décida. Et quand on creuse la parole et quand on creuse dans les commentaires, on trouve aussi Daniel prit la ferme résolution dans son cœur. Je le répète, Daniel prit la ferme résolution dans son cœur. Mes amis, tout part de là. Prendre la ferme résolution dans son cœur. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient en exil dans un monde qui n'était pas le leur, comme nous. Et qu'ils savaient qu'il y avait un combat spirituel à mener dans le jeûne et dans la prière pour sortir de cette situation, comme nous. Est-ce que ça a empêché Anania, Michaël et Azaria, normalement vous entendez plus souvent Shadrach, Meshach et Abednego, mais ça c'est l'identité qui a été donnée par les Babyloniens, est-ce que ça les a empêchés d'aller dans la fournaise à cause de leur foi ? Non. Pire encore, elle a été chauffée 7 fois plus. Est-ce que ça a empêché que Daniel ne soit pas jeté dans la fosse aux lions parce qu'il priait 3 fois par jour ? Non. Il y a été, et Dieu a fermé la gueule des lions. Mais l'exil devient pour Daniel et ses 3 amis un lieu de purification, un lieu d'édification et un lieu de formation spirituelle. Et on en a parlé, Corinne, tu en as parlé avec Moïse. Ça nous rappelle une histoire dans le désert. Moïse a été amené dans le désert et il a été purifié. Il a été édifié. Il a fait face au buisson ardent. Alors nous aussi, nous aurons des moments d'exil, de désert, des endroits où Dieu veut volontairement nous amener pour nous éprouver, pour nous purifier, pour nous émonder, pour nous former spirituellement. Mais regardez ce que dit Ésaïe 43, verset 2. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. » Dieu nous promet qu'il sera avec nous, à chaque instant, dans notre marche, quotidiennement, dans tout ce que nous entreprenons. Et aujourd'hui, grâce au sacrifice de Jésus et à son sang, nous pouvons accéder au Père, par nos prières et par le jeûne. Amen. Le jeûne ne revient pas sans effet, soyez-en sûrs. On lit dans Daniel, « Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science du discernement dans toutes les lettres de la sagesse. » Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves. Il est même dit un peu plus loin que le roi les trouvait 10 fois supérieurs par rapport aux autres. Daniel est exilé, il est un simple serviteur et il se retrouve propulsé en tant que conseiller du roi, conseiller des rois d'ailleurs, il va y en avoir plusieurs. Pour Moïse, c'était pareil, il a jeûné, qu'est-ce qu'il a reçu ? Les tables de la loi. J'en ai pris quelques-uns comme ça. Esther, un jeûne collectif qui a permis quoi ? Le renversement d'un décret de mort. Ninive, un jeûne national, vous vous rappelez cette prédication sur Jonas ? Ceux qui ne s'en souviennent pas. Elle est en ligne. La suspension du jugement de Dieu. On l'a vu, Jésus jeûne au désert, victoire sur la tentation. Josaphat, le jeûne du peuple, une victoire sans combat. Mais on n'a pas besoin d'aller si loin. Et depuis toujours, maintenant et pour l'éternité, Dieu continue son œuvre et il continue d'agir. Est-ce qu'on le croit ? John Wesley, j'en ai parlé tout à l'heure. Il pratiquait le jeûne 2 fois par semaine. Le réveil méthodiste a entraîné des milliers de conversions, une transformation morale de l'Angleterre, baisse de l'alcoolisme, baisse des violences, diminution de la pauvreté. Des tavernes même ferment dans certains quartiers pour du jeûne et de la prière, les amis. J'ai pris un autre exemple aussi, le réveil de 1857 aux États-Unis. Les États-Unis traversent une période de forte instabilité, une crise économique, du chômage, de l'insécurité générale et des églises qui ne sont plus fréquentées. Un mouvement de prière et de jeûne commence par quelqu'un qui est laïque. Quelqu'un qui est laïque. Un jour par semaine, à l'heure du déjeuner, sans prédication, que de la prière et du jeûne. Au début, il y avait 6 personnes. En quelques mois, des réunions quotidiennes, des milliers de participants à New York. Propagation instantanée dans d'autres villes, Boston, Chicago, Philadelphie. Ce mouvement ne dépend d'aucun grand leader, aucun grand prédicateur, mais simplement d'une mobilisation générale. Vous voyez la puissance qu'il y a dans le jeûne et la prière ? En quelques mois, plus d'un million de conversions, des églises remplies et une baisse significative de la criminalité dans certaines villes. Est-ce qu'on ne veut pas s'attendre à ça, nous, en tant qu'église ? Quand on entend tout ce qui se passe là, à quelques milliers de mètres vers Pisevin et tout ce qui se passe là. Est-ce qu'on ne veut pas le croire, nous ? Dernier exemple, au Pays de Galles, 1904. Des petits groupes pratiquaient des sessions de prière et d'intenses jeûnes et prières. Résultat, 100 000 conversions en moins d'un an. Fermeture des bars et fermeture de certains tribunaux, tellement il ne se passait plus rien. Moi, je crois que ça peut se passer encore aujourd'hui. Et il s'est passé des choses similaires en Corée du Sud, au XXe siècle, ou au Rwanda, dans les années 90. Moi, je suis émerveillé par ce que Dieu peut faire à travers une mobilisation personnelle et collective. Alors oui, on ne jeûne pas pour avoir une réponse ou pour obtenir quelque chose. On jeûne pour se rapprocher de la face de Dieu. Mais Dieu dit qu'il nous donnera ce dont on a besoin. Alors continuons à nous mobiliser. Est-ce qu'on croit que Dieu peut agir aujourd'hui ? Est-ce qu'on veut que Dieu agisse aujourd'hui ? J'aimerais finir avec ça. Jacques 1, verset 22. Mettez la parole en pratique et ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et y demeure, non pas en écoutant pour oublier, mais en mettant en pratique, celui-là sera heureux dans sa pratique même. Et même si nous terminons cette semaine de jeûne et prière, j'ai envie de nous encourager que ce dimanche ne soit pas la fin d'une semaine de jeûne et prière, mais que ce soit le début de quelque chose, le début d'une discipline qu'on met en place, individuellement, collectivement. Et faisons comme Nico, entraînons-nous. Parce que ça marche pour le jeûne, ça marche pour le sport, mais ça marche pour la foi. Ça marche pour la prière, ça marche pour tout à partir du moment où on marche avec Dieu. Jeûnons seul, jeûnons en petit groupe, jeûnons à deux ou trois, jeûnons dans nos groupes de vie, jeûnons dans nos groupes de croissance. Mais n'attendons pas que ce soit l'Église qui mette en place un jeûne. Vous n'avez pas besoin de l'Église pour jeûner. On n'a pas besoin que les responsables décident d'une semaine de jeûne et prière pour jeûner dans l'année. Et que ce ne soit pas simplement « Ok, bah, quand on est à la CM, on sait que la première semaine de l'année, on jeûne. Bah, » Non, prenons. Même si ce n'est pas toutes les semaines, ce n'est pas tous les mois, mais prenons cette habitude. Simplement pour tourner nos yeux vers Dieu et aller chercher la face de Dieu. J'ai marqué « Oui, nous avons un Dieu de grâce, mais nous approcher de lui n'est pas une option. » Nous avons un Dieu de grâce, mais se tourner vers lui n'est pas une option. Dernière citation de Grudem, après j'arrête. « La plupart des chrétiens occidentaux ne jeûnent pas, mais si nous étions prêts à jeûner plus régulièrement, ne serait-ce qu'un seul repas, nous pourrions être étonnés de la puissance et de la force spirituelle que nous aurions dans nos vies et dans nos églises. » Je vais la répéter parce que je n'ai pas entendu assez de « Amen ». La plupart des chrétiens occidentaux ne jeûnent pas, mais si nous étions prêts à jeûner plus régulièrement, ne serait-ce qu'en sautant un repas, nous pourrions être étonnés de la puissance et de la force spirituelle, individuellement et dans nos églises. Amen. Est-ce que vous voulez voir les choses changer? Est-ce que vous voulez voir des percées? On l'a chanté tout à l'heure. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre. Waouh! Moi, quand je sens ça, j'ai un vrai espoir derrière. C'est de voir la gloire de Dieu à travers ça, à travers des guérisons, à travers des addictions qui sont tombées, à travers de la restauration, à travers toutes ces choses finalement, parce qu'on ne vient pas à l'église simplement pour profiter de 2 heures dans la présence de Dieu. On vient pour ça, pour se rapprocher de lui et pour goûter à cette gloire. Est-ce qu'on a envie de voir la gloire de Dieu à travers des réveils? C'est bien beau les histoires dans les années 1700, 1800. Moi, je veux voir ça aujourd'hui. Je l'ai connu étant petit. Je veux le voir. Je veux le voir. Alors continuons à adorer les amis. Continuons à marcher dans la vérité. Continuons à être remplis de l'Esprit. Et continuons surtout à être consacrés et à être à l'écoute de ce que Dieu a à nous dire. Amen. Soyez bénis.